Des mots pour le dire, une émission présentée par Edonès Banti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le réseau FM+, si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous hebdomadaire des mots pour le dire, une voix nommée Jésus, l'évangile selon Thomas, livre paru aux éditions d'Evry et écrit d'Hervy et écrit par Michel Théron qui nous accompagne de semaine en semaine dans ces rendez-vous pour découvrir en profondeur, comme il a écrit théologie buissonnière, je dirais un évangile buissonnier. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane, bonjour à tous.
Alors comme souvent, j'aime bien démarrer par des petites citations, et comme le chapitre d'aujourd'hui commence par une citation de l'évangile de selon Thomas, quelque chose qui rejoint un peu cela, un proverbe arabe qui dit « Le destin pose deux doigts sur les yeux de l'homme, deux dans ses oreilles et le cinquième sur ses lèvres en lui disant « Tais-toi ». Ensuite, un autre proverbe de Joseph Joubert qui disait « Si la prière ne change pas notre destin, elle change nos sentiments, utilité qui n'est pas moindre. » Voilà. C'est pour rejoindre un peu la citation sur laquelle on va démarrer l'émission aujourd'hui.
Oui, la première citation me fait penser à un proverbe latin qui dit « Mutus tutus », c'est-à-dire, ça fait par onomase, hein, c'est-à-dire cliquetis verbal, « Celui qui est muet est en sécurité ». Voilà, « mutus tutus ». Et on retrouve l'orientation gnostique selon laquelle, avant toute chose, il y avait non pas le logos, la parole, comme le dit le prologue de l'évangile selon Jean, mais le silence, « sigé » en grec, le silence, vous voyez. Et on rejoint ce dont nous avons déjà parlé, la théologie apophatique, qui consiste à dire, entre guillemets, qu'on ne peut rien dire de Dieu, précisément. « Dieu n'est pas ceci, Dieu n'est pas cela ». Voilà, alors nous partons maintenant du Logion 22 de l'Évangile selon Thomas, au verset 17 à 21. « Lorsque vous faites des yeux à la place des yeux, et une main à la place d'une main, et un pied à la place d'un pied, une image à la place d'une image, alors vous entrerez dans le royaume. » J'imagine qu'entendant cela, certains auditeurs doivent écarquiller les yeux et dire « Mais enfin, de quoi parle-t-on ?» Parce que c'est extrêmement difficile à comprendre et énigmatique. Hein. Mais enfin, notre but, Redouane, c'est d'éveiller le douteux.
Voilà, c'est d'allumer le décodeur.
voilà. Hein. Enseigner, ce n'est pas remplir un vase, mais allumer un feu. Je crois que c'est Montaigne qui dit quelque part quelque chose d'analogue, vous voyez. Donc, voilà. Alors, c'est un logion très, très énigmatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça faire des yeux à la place des yeux, etc. Hein. Eh bien, c'est un mouvement par lequel on donne à tout ce qu'on dit ou tout ce qu'on fait le poids initial essentiel et la densité primordiale que je dirais ontologique, c'est-à-dire qu'il y a rapport à l'être. Hein. Et alors, les choses que nous font perdre la rouille du temps, son entropie, son refroidissement, hein, la machinalité aussi de toutes nos actions, eh bien, toutes ces choses-là sont annulées. Et puis, finalement, on retrouve la magie du surgissement premier, où les noms correspondent véritablement à leur définition. Dans la précédente émission, qui était consacrée à l'image modèle, nous avons déjà envisagé ce point, hein. Et finalement, en partant de la définition des choses, on peut inférer ou conclure à leur existence. Alors c'est le fameux argument ontologique qui prétend prouver l'existence de Dieu par sa définition. Cet argument, nous le devons à Saint Anselme de Canterbury. Hein. Alors voici en quoi il consiste. « J'ai en moi l'idée d'un Dieu souverainement parfait, totalement parfait, donc il existe parce que s'il n'existait pas, il lui manquerait la perfection d'exister. » Alors cet argument est repris par Descartes au livre 4 de son discours de la méthode. Alors vous savez, Redouane, qu'il y a plusieurs arguments qui prétendent prouver l'existence de Dieu. On peut les classer en deux grandes catégories. Premièrement, les arguments dits « a posteriori », c'est-à-dire des arguments au moyen desquels on prouve l'existence de Dieu d'après ce qu'il a fait, d'après le monde, d'après l'extérieur, si vous voulez. Et puis il y a un seul argument a priori, celui que nous venons de dire, celui de saint Anselme, où on le prouve d'après sa définition. Alors, pour les arguments a posteriori, certains disent « tout a une cause ». Donc, deuxièmement, le tout a une cause. Conclusion, cette cause est Dieu, vous voyez, il faut bien qu'il y ait une cause. Voilà un argument a priori qui va chercher le monde comme créature de Dieu. Mais cet argument, un argument a posteriori, hein, mais cet argument suscite aussitôt un doute, une interrogation, parce que si tout a une cause, eh bien alors quelle est la cause de Dieu? Vous voyez? Alors les théologiens, savants comme on le sait, disent oui, mais Dieu est cause de lui-même, en latin causa sui, il s'est engendré lui-même en quelque sorte. Mais est-ce qu'on peut être cause de soi? Vous voyez, l'argument a posteriori ici suscite la réprobation du raisonnement. Même chose pour l'argument a posteriori qui prétend prouver Dieu par les merveilles de la création. Il y a bien des choses merveilleuses dans le monde, donc il y a nécessairement un être qui les a créées. Le monde est une horloge et je ne puis penser que cette horloge existe et n'est point d'horloger, disait Voltaire, vous voyez, hein. Mais cet argument, on peut effectivement y croire, hein, par exemple dans Le gland et la citrouille de La Fontaine, hein, vous connaissez l'histoire, bon, un brave paysan se pose la question métaphysique suivante, comment se fait-il que les citrouilles, qui sont des très gros fruits, poussent à ras de terre, et comment se fait-il que le gland, qui est un tout petit fruit, pousse sur un arbre aussi grand que le chêne? Ayant ainsi raisonné, il va s'endormir sous le chêne, ce qui prouve par parenthèse que ça ne l'occupait pas beaucoup quand même, puisqu'il dort, hein, il dort, voilà, il fait la sieste. Et puis pendant son sommeil, tombe un gland sur sa figure, sur son nez, hein, voilà. Et alors le paysan se réveille et dit « Ah, maintenant je comprends ». Parce qu'effectivement, si la citrouille lui était tombée sur la figure, eh bien, ça faisait un clash. Oui, oui.
C'est pour ça qu'il ne faut jamais dormir sous un cocotier.
Ah, mais oui, vous avez raison. Et oui, alors là, vous donnez exactement l'argument destructeur, justement. Parce qu'il y a bien sûr des merveilles, des choses bien faites. Hein. Bernardin de Saint-Pierre, par exemple, dans « Les harmonies de la nature », disait que le melon a des tranches pour être mangé en famille. Vous voyez, il est prédécoupé. Hein. Et la citrouille étant plus grosse pour être partagée avec les voisins. Vous voyez, bon, on y croyait hein, à cette époque-là, à l'époque de Bernardin de Saint-Pierre, à la finalité perceptible dans les choses. Il disait aussi, tenez des choses amusantes, la puce est noire pour qu'on la voie sur le drap blanc. Vous voyez, effectivement, on la voit mieux, etc. Hein. Et il disait aussi, les chiens sont ordinairement de plusieurs couleurs, parce que souvent ils se posent sur des meubles, et s'ils étaient monochromes, on pourrait les confondre avec la couleur des meubles. Enfin, disons que cela fait rire, hein, parce que effectivement, les merveilles de la création, prouvant l'intelligence et la bonté d'un créateur, sont contestables. Hein. Par exemple, on dit « regardez le beau soleil qui nous éclaire », mais n'oubliez pas que les aveugles ne le voient pas, ce soleil. Hein. Donc pour eux, l'argument de la finalité que j'ai dit n'est pas recevable. Hein. Le soleil brille pour tout le monde, dit l'Évangile. Hein. « Sol lucet omnibus » dans la Vulgate. Hein. D'accord, mais il ne brille pas pour ceux qui sont dans les prisons, pour ceux qui sont dans les cachots, et il ne brille pas pour les aveugles. C'est Diderot qui le remarque dans sa fameuse lettre pour les aveugles. Donc on peut critiquer l'argument a posteriori, hein, prouvant Dieu par la création, en disant qu'il y a des choses mal faites, hein, mal faites. Hein.
Mais on peut avoir des yeux pour voir et ne pas voir. D'ailleurs, Jésus, à un moment, le dit, quand la lumière passe devant vous, vous qui êtes aveugle, vous ne la voyez pas.
Oui, 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 bien sûr.
C'est aussi d'une deuxième dimension, j'allais dire.
Oui, je crois qu'il cite un texte de la Bible juive en disant, je crois que c'est Isaïe, hein, je les ai cachées, ces choses-là, pour qu'ils ne les voient pas. Hein, et c'est pour cela qu'il parlait en parabole lui-même, c'est-à-dire à usage interne pour ses propres disciples. Mais souligner l'existence du mal sur la terre ruine l'idée d'un Dieu totalement bon. Déjà, saint Augustin posait la question, si Deus est, unde malum, hein, si Dieu existe, d'où vient le mal? Je vous vois réagir.
Non, moi, je dirais, c'est pas une question, c'est la question qui pose, que pose le mal, ou que pose l'imperfection du monde, on va dire, c'est de la toute-puissance de Dieu.
Oui.
C'est plus, enfin, moi ça me questionne là-dessus, et c'est vrai que cette manière de voir ou projeter l'image que l'on a d'un Dieu tout puissant se pose en ces termes-là, c'est-à-dire face à l'imperfection du monde, quid de.
C'est vrai. Vous savez que bon, j'ai cité Voltaire, l'horloge et l'horloger, mais Voltaire a été très déstabilisé par une grande catastrophe qui s'est produite au Portugal, à Lisbonne, au milieu du XVIIIe siècle, le tremblement de terre de Lisbonne qui a fait je ne sais pas combien de milliers de morts. Hein. Alors à ce moment-là, Voltaire s'est posé la question justement de la bonté de Dieu. Hein. Il a écrit un poème sur le désastre de Lisbonne. Donc c'est vrai que ça nous ébranle, ça. Hein. Le mal, on n'en voit pas la finalité, vous voyez. Et de ce point de vue, tous les arguments qui prétendent prouver Dieu par sa création, les merveilles de la nature, hein, bon, sont réfutables, il me semble. Et là, Redouane, vous parliez de la toute-puissance de Dieu. Bon, je sais bien, par exemple, monsieur le professeur André Gounel n'y croit pas, apparemment, la toute-puissance de Dieu, hein, mais c'est quand même un article de foi de notre credo. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, vous voyez, enfin, au moins dans la modalité catholique. Alors, peut-être que chez les protestants libéraux, dont vous faites partie, et dont je me sens très proche, bon, cette idée de toute-puissance de Dieu n'est pas toujours reçue, hein, peut-être, hein, peut-être.
Elle est en questionnement.
Elle est en questionnement.
Tout à fait, mais c'est pas, en disant, se poser des questions sur la toute-puissance de Dieu ne signifie pas pour autant décrédibiliser la parole de Dieu ou l'action de Dieu. Je veux dire, voilà, il y a une distinction, mais ça peut être un sujet peut-être
absolument, une fois à débattre ensemble. D'une autre émission. Alors reste notre argument a priori, c'est-à-dire que nous avons dans la tête l'idée de ce qu'est la perfection, hein, et indépendamment de ce que nous constatons sous nos yeux, cet argument est peut-être le seul irréfutable. Alors, bien sûr, c'est un argument idéaliste, puisqu'il prétend prouver une définition, une existence par une définition. Mais, on peut le critiquer si on est empiriste, hein. On peut critiquer les essences, les définitions qui subsument tout ce que nous voyons derrière une abstraction. Par exemple, Protagoras disait à Socrate, « Socrate, je vois bien le cheval, mais je ne vois pas la chevalité, c'est-à-dire l'essence même du cheval, vous voyez, hein ?» Socrate, lui, était pour les essences ou les archétypes dont nous avons déjà parlé dans nos précédentes émissions. Et pareillement, si on parle de la femme, bon, il y a les femmes que nous rencontrons, et puis l'idée de la femme, peut-être, est une abstraction qui est dans l'esprit, mais qui n'a pas lieu d'être. Bon, c'est ce que diraient les réalistes. Néanmoins, même s'il est idéaliste, et c'est un argument, à mon avis, difficilement réfutable. Kafka dit très bien, les corneilles ne peuvent pas détruire le ciel, car ciel signifie l'impossibilité des corneilles, vous voyez. Donc il reprend cette idée idéaliste d'une définition qui, existant dans l'esprit, ne peut pas ne pas être pensée. Alors, finalement, lorsqu'on fait des yeux à la place des yeux, etc., comme le dit Thomas, hein, on peut dire que la chose correspond enfin à sa définition. Et je peux dire surtout qu'elle retrouve sa définition première. Ce n'est pas pour rien que le début du Logion 22, là dont je suis parti, commence par l'éloge de l'état d'enfance et puis se termine par celui de l'unification, vous voyez. Or, c'est précisément dans l'enfance, qui est un état d'unification, que les choses et les êtres répondent parfaitement à leur nom, hein. avant tout ce qui suivra dans la vie d'adulte, qui n'est que chute ontologique, qui n'est que bavardage, parlerie, pour reprendre ce que dit Heidegger dans L'être et le temps. Hein. Et Ernst Jünger, un grand penseur allemand, un grand écrivain allemand, disait « Le verbe repose sous les vocables comme le fond d'or dans les tableaux des primitifs ». Alors derrière tout ce que nous disons, qui sont des vocables, hein, il y a le verbe, c'est-à-dire l'essence, la définition. On a vu que c'est dans l'enfance que les archétypes parentaux sont perçus. Hein. Dans l'enfance seulement, le père avec un petit p et le père avec un grand p et la mère pareil et la mère avec un grand m. Hein. Et après, ce qui suit l'enfant, c'est un exil. C'est un exil. Alors là, évidemment, c'est typiquement gnostique. Hein. Victor Hugo disait, à propos de, en formulant l'expression en latin, « Vita exilium est », la vie est un exil. Et alors, dans cet exil, on est sans cesse tourmenté par le désir de revenir à cet état où les choses correspondent à leur définition. Et je vous avais dit, Redouane, vous vous souvenez que je n'étais pas pour l'expression « on retombe en enfance », j'étais au contraire pour l'expression « on remonte en enfance hein. ». Il faut remonter en enfance. Parce que vous savez, dans la vie, le choix est tout simple. Hein. Il n'y a que deux hypothèses. Ou bien on se laisse charrier par le courant de l'entropie, du refroidissement, on se laisse aller, on va à volo, hein. Ou bien alors on remonte à la source originelle, à cet enfant intérieur que nous portons en nous. Alors dans le premier cas, nous sommes un bois mort, hein, un bois flotté, voilà, au fil du courant. Et dans le deuxième cas, nous sommes un saumon. Vous savez, Redouane, que les saumons remontent à la source, après avoir été dans la mer, hein, ils remontent à la source, là où ils sont nés pour se reproduire. Et ensuite, ils meurent, vous voyez. Hein, remonter. Alors, je préfère être saumon, hein, moi, que bois mort, bois flotté. Alors, le désir de remonter à la source, c'est ce qu'on appelle la nostalgie. Alors, en grec, nostalgie signifie « maladie du retour hein, ». Algeia, c'est la maladie, vous avez dans tout ce qui se termine par algie, hein. Et nostos, c'est le retour, la maladie du retour, hein. Donc on peut appeler cela avec Eliade, Mircea Eliade, grand historien des religions, la nostalgie des origines. C'est le titre d'un de ses livres essentiels, qui est dans Folio, dans l'édition Folio et c'est Gallimard. Ou bien avec Yves Bonnefoy, un grand poète, hein, on peut parler de la nostalgie de l'arrière-pays. Voilà, l'arrière-pays. Yves Bonnefoy nous dit que dans tous les pays que l'on visite, il y a derrière un arrière-pays que peut-être nous avons connu et auquel nous devrions revenir. L'arrière-pays est en la collection Poésie chez Gallimard.
What spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long. And adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Mm-hmm.
toujours à l'écoute des mots pour le dire. Une voix nommée Jésus, l'évangile selon Thomas, toujours avec Michel Théron, si vous êtes sur le 91 MHz, l'agglomération Montpellier-Rennes Radio FM+, ou bien le 103.1 Radio Alliance+. Alors, on vient de voir cette première partie, donc de l'essentialisation. J'ai la langue qui fourche. Donc, toujours avec l'évangile de Thomas, et avec, c'était vraiment très énigmatique, comme il peut l'être parfois. Et avec vous, Michel, on ouvre petit à petit, comme dans la chambre des secrets, hein, pour découvrir ce qui se cache derrière les mots, parce que les mots ont une signification importante.
Absolument. Le mot peut désigner quelque chose de banal, d'ordinaire, ou bien peut désigner l'essentiel, vous voyez. Par exemple, l'évangile selon Philippe, un autre évangile à tendance gnostique, nous dit « Il y a des choses cachées par ce qui est visible, il y a une eau dans une eau, il y a un feu dans un crème. Hein, » c'est au Logion 25, vous voyez. Donc, vous avez là une structure antanaclastique, j'ai déjà parlé de l'antanaclaste, je n'y reviens pas, hein. On répète un mot en lui donnant un nouveau sens. Il y a une eau dans une eau signifie, il y a une eau essentielle dans une eau accidentelle, dans une eau visible. Hein. Et l'évangile selon Philippe, toujours, reprend cette idée des archétypes dans un logion que j'aime énormément. Hein. Je le lis, « En ce monde, ceux qui portent des vêtements sont supérieurs aux vêtements. Dans le royaume des cieux, les vêtements sont supérieurs à ceux qui les portent. » Alors ça, c'est magnifique. Hein. Ça veut dire que l'archétype institue l'homme spirituel qu'il incarne en se couvrant de lui comme d'un vêtement céleste qui lui est supérieur parce qu'il lui doit la vie, vous voyez, hein. Donc, dans tout être, il y a deux natures, la nature imparfaite et mêlée habituelle, et puis ce qu'il peut être à certains moments, et qui est son vêtement spirituel, en quelque sorte, une espèce d'aura, si vous voulez. En Orient, on parle de l'aura des gens, hein, vous voyez, on a aura, alors A-U-R-A, hein, c'est-à-dire une espèce d'auréole qui illumine une personne, vous voyez, hein. Eh bien, c'est vrai qu'à certains moments, le vêtement que nous portons est plus que nous-mêmes. Ce vêtement est un vêtement magique qui nous fait atteindre ce monde des archétypes. Alors, il arrive que l'évangile selon Thomas, par effet de contexte, nous permette de préciser le sens donné à l'antanaclase quand elle a un but essentialisant. Hein. Par exemple, voici le Logion 27. Si vous ne jeûnez pas au monde, vous ne trouverez pas le royaume. Si vous ne faites pas du sabbat le sabbat, vous ne verrez pas le Père. Alors là aussi, j'imagine la surprise des auditeurs, parce qu'ils vont se dire, qu'est-ce que ça veut dire faire du sabbat le sabbat, hein? Bon, qu'est-ce que ça veut dire sabbatiser le sabbat, hein? Eh bien, c'est revenir à son essence, à ce qu'il doit être, hein? Par-delà ce que l'on en fait, c'est-à-dire un recueil de prescriptions et surtout d'interdits, hein, voyez. Donc, quant à jeûner au monde, comme le dit l'évangile selon Thomas, jeûner n'a évidemment pas le sens d'observer le jeûne, hein, que le Logion 14, par exemple, condamne, hein, mais il doit être pris dans un sens figuré, et cela conduit vers une attitude, je dirais, antinomiste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire antinomiste? C'est le fait d'être hostile à la loi, nomos, hein, nomos en grec, hein. Puisque c'est dans le monde, précisément dans la société, dans la communauté religieuse à laquelle on appartient, par exemple, que l'on doit observer les lois et les règles qui sont afférentes au sabbat. Hein. On ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela, on ne doit pas conduire sa voiture, on ne doit pas fumer de cigarette, j'imagine, hein, des choses comme ça, hein. Donc le jour du sabbat. Hein. Et alors, on sait que l'évangile selon Thomas récuse totalement ces interdictions. Hein. Voyez les Logia numéro 6, numéro 14, numéro 104. J'en profite pour signaler aux auditeurs qu'à la fin de mon ouvrage, j'ai reproduit en entier, in extenso, comme on dit en latin, cet évangile selon Thomas, hein, dans la traduction de Philippe de Suarez, d'après le Copte. Donc, en quelque sorte, le livre contient deux livres en un seul. Il contient à la fois mon commentaire et l'évangile lui-même. Hein. Donc, quand je numérote ces logias, je renvoie à l'évangile reproduit à la fin. Alors, faire du Shabbat le Shabbat, hein, signifierait savoir s'abstenir du Shabbat même, au sens d'interdiction, en scrutant et en comprenant bien ce qu'il veut dire. Et ce serait donner au Shabbat son sens le plus profond, qui inclut même la possibilité de sa transgression ou de son oubli. Alors, les évangiles canoniques disent eux aussi que le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Hein. C'est l'évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 8. Hein. Alors, je crois que Jésus dit, par exemple, si il y a une brebis ou, je sais pas, un membre du cheptel qui tombe dans un trou au jour du Shabbat, il faut aller la repêcher. Je crois que c'est ça, Redouane, je parle sous votre contrôle. Hein. Donc, on peut très bien agir, hein, pour venir en aide à quelqu'un, fût-il un animal, le jour du Shabbat. Hein. Donc, le Fils de l'homme est maître du Shabbat, hein, c'est bien ça. Donc, ça fait éclater totalement l'orthopraxie juive, hein, l'observance rituelle du Shabbat lui-même.
Le Shabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme.
Ah, très bien, oui, voilà. Ah, vous avez raison, ça c'est une formule que j'aime beaucoup, je la reprends toujours. Le Shabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat, c'est magnifique. Parce que vous pouvez remplacer le mot Shabbat par toutes les idoles auxquelles croient nos contemporains, les idoles de la modernité, et ça marche. Par exemple, on peut dire la voiture est faite pour l'homme et non pas l'homme pour la voiture, hein, vous voyez, ou bien le sexe est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sexe, ou l'argent est fait pour l'homme et non pas l'homme pour l'argent, vous voyez. Donc toutes les idoles éclatent là-dedans. C'est très belle cette formule, très belle. Mais il y a en plus dans l'évangile selon Luc un verset totalement gnostique relativement à la foi, qui figure seulement dans le Codex de Bèze, qui est un texte occidental, et qui, selon le chercheur Christian Anfou, mon ami Christian Anfou, est un texte qui s'abreuve à une tradition bien plus ancienne que celle des grands manuscrits alexandrins du IVe siècle, dans le Codex de Bèze. Hein, c'est Théodore de Bèze, B-E-Z-E, hein, un protestant de la Réforme. Hein, bon, je crois que ce Codex de Bèze se trouve à Oxford. Hein, là, les spécialistes nous le dirons, en Angleterre. Donc, c'est un ajout au texte reçu du chapitre 6, verset 4 de Luc. Et le contexte concerne la nécessité ou non d'observer le sabbat, hein, le Shabbat. Alors, voici cet ajout. Le même jour, voyant quelqu'un travailler le jour du Shabbat, il lui dit « Homme, si tu sais ce que tu fais, tu es heureux. » Si tu ne le sais pas, tu es maudit et transgresseur de la loi. Vous voyez, hein? Kataratos kai parabates tu nomu. Maudit et transgresseur de la loi. Donc, tout dépend de l'intention, hein, dans laquelle on se trouve. Si on sait, alors ça c'est très gnostique, parce que si tu sais, en grec c'est eimen oidas, si d'une part tu sais, ça renvoie à la gnosis, c'est-à-dire la connaissance, hein, la compréhension des choses. En fait, il n'y a pas de règle générale, il faut savoir ce que l'on fait. Je pense aussi à la réponse qu'a fait saint Augustin à un de ses disciples qui lui demandait ce qu'il devait faire dans la vie. Augustin répondit « Diligé et fac quod vis », c'est-à-dire « aime et fais ce que tu veux ». Voyez, hein? Donc c'est bien l'intention qui doit présider à toute action, la perception du but, hein, et non pas l'observance rituelle d'une règle. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul, je crois, hein, Redouane, qui dit très bien « la lettre tue et l'esprit vivifie hein, ». Voilà, gramma, hein, la gramma, la lettre, ce qui est grammatique. Ce qui est grammatique, finalement, est moins important que ce qui est pneumatique. Alors ça veut dire quoi? Pneumatique, c'est l'esprit, qui a rapport à l'esprit, le spirituel. Hein. Donc parfois, le pneumatique doit l'emporter sur le grammatique, l'esprit doit l'emporter sur la lettre, hein, vous voyez. Donc, alors pourquoi ce logion qui a fasciné par exemple un homme comme Jung, Carl Gustav Jung, pendant toute sa vie, hein, si tu sais ce que tu fais, c'est bien, si tu sais pas, c'est mal. Hein. Pourquoi ce logion n'a pas été reçu, hein, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas gardé, hein, alors qu'il nous donnait bien la clé de ce qu'il faut entendre par faire du Shabbat le Shabbat, c'est-à-dire aller d'un comportement machinal et extérieur, purement circonstanciel, à une compréhension de son sens profond, correspondant à sa définition même, un sens précisément essentiel. Shabbat ou non, nécessité humaine fait loi dans certains cas. Et ça me semble évident. Si quelqu'un est blessé sur la route, même si c'est le Shabbat, il faut aller s'enquérir de ce qu'il a, il me semble. Voilà. Alors, pourquoi cela n'a pas été reçu? Parce que ce passage insiste sur le savoir ou la connaissance. Il est très proche de l'orientation de l'évangile selon Thomas. Mais qu'il n'ait pas été retenu à l'église est compréhensible. Pourquoi? Parce qu'il est trop difficile à interpréter et on a dû penser que les fidèles préféraient qu'on leur dise ce qu'ils devaient faire plutôt que d'être livrés à l'inconfort de leur réflexion personnelle, au tribunal de leur propre conscience. Et là sont les deux handicaps majeurs de la gnose en général. Premièrement, la difficulté de comprendre une proposition et une formulation qui sont complexes. Et deuxièmement, le désagrément d'être seul pour le faire. Donc, hélas, la finitude humaine est telle que les gens préfèrent être dirigés que d'être sommés de réfléchir eux-mêmes et d'être renvoyés comme en miroir à leur propre figure.